Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une phrase de l'état-major polonais qui pourrait peut-être changer la donne. Varsovie annonce que l'OTAN envisage d'abattre les missiles russes trop proches de ses frontières. La Pologne est en alerte maximale depuis dimanche et le survol de son territoire pendant 39 secondes d'un missile russe. Aujourd'hui, dans une vidéo, le président biélorusse Loukachenko assume même et évoque un plan d'attaque pour envahir la Pologne. L'Europe de l'Est sous pression, naturellement, alors que Vladimir Poutine accuse désormais les Occidentaux d'avoir facilité l'attentat de Moscou. La France, de son côté, accélère sur la production d'armement et le ministre des Armées assume qu'il pourrait y avoir des réquisitions d'industrie militaire pour accélérer la cadence. C'est une première et un pas de plus vers le passage, peut-être, à une économie de guerre. Missiles russes en Pologne, l'OTAN prête à riposter, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, le général Patrick Dutartre, vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace, vous êtes ancien pilote de chasse. Vincent Hugeux est avec nous, vous êtes journaliste indépendant, essayiste, spécialiste des enjeux internationaux. Pierre Haroche, vous êtes maître de conférences en sécurité internationale à l'université Queen Mary de Londres. Annie de Menton est avec nous, vous êtes journaliste essayiste, auteur de « Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance » aux éditions Buchet-Castel. Et puis avec nous ce soir, en direct de Moscou, Paul Gogo, vous êtes journaliste indépendant, correspondant à Moscou. Vous collaborez notamment régulièrement à Ouest France. Citons votre livre « Opération spéciale, 10 ans de guerre entre Russie et Ukraine, vu et vécu depuis le Donbass » aux éditions du Rocher. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir.
Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je voudrais rester avec vous à Moscou, Paul Gogo, pour revenir sur la déclaration de Vladimir Poutine, qui donc explique qu'il reconnaît une implication des islamistes, mais dans le même temps dit c'est la faute des Occidentaux et de l'Ukraine. Je résume.
Oui, c'est une sacrée gymnastique. On comprend depuis l'étranger, mais depuis la Russie, à la limite, c'est un petit peu moins clair peut-être. Ce qu'on comprend, c'est que le président russe a visiblement la volonté de relier les choses à l'Ukraine déjà, parce que peut-être qu'il y a eu des fautes de la part de ses services. A priori, l'attentat a eu lieu, donc c'est qu'il y a eu au moins des erreurs au sein des services de sécurité, ceux qu'on présente comme des services ultra-puissants. Bien sûr, il y a le fait que depuis plus de 2 ans, Vladimir Poutine il travaille sa population, les mentalités, pour que tout soit systématiquement renvoyé vers l'Ukraine, que les esprits se préparent à la guerre, soient convaincus même par le besoin de cette guerre. Et c'était même l'objectif de sa campagne électorale à Vladimir Poutine, qu'on arrive à la fin de sa campagne avec un excellent résultat, un grand taux de participation et que la population soit convaincue qu'il y a besoin de cette guerre. Et là, cet attentat, c'était un risque social en quelque sorte et donc il fait tout pour le rediriger vers l'Ukraine.
Vincent Hugeux, sur les explications de Vladimir Poutine.
Précisément, ce qui me frappe le plus depuis la commission de ce carnage abject, c'est les dissonances dans les discours des officiels. Ces gens devraient quand même accorder leur violon, plus exactement leur balalaïka en l'occurrence, parce que vous avez un Poutine 1 puis un Poutine 2 qui ne disent pas exactement la même chose puisque l'État islamique ressurgit dans sa deuxième prise de parole, ne figurait pas dans la première. Vous avez un Alexander Bortnikov, patron du FSB, qui avance une hypothèse. Vous avez Nikolai Patrouchev, alors certes plus proche, lui appartient au cercle des intimes de Poutine, à la différence de Bortnikov, qui lui aussi apporte sa version. Un peu comme si on avait énormément de difficultés à formater une version relativement homogène et cohérente.
Et ça, crédible ou pas, ou peu importe.
Non, la crédibilité n'est pas un enjeu, pas plus que le score à une élection présidentielle. Et d'ailleurs, ce qui est là aussi très troublant, c'est que dans l'obsession ukrainienne que Paul Gogo vient de mentionner à l'instant, il y a aussi une dimension paranoïaque. Vous savez, il existe un principe qui s'appelle « duty to warn », c'est-à-dire le devoir d'alerter. Et c'est au nom de ce principe que les États-Unis, par exemple, avaient fourni des éléments préoccupants, des signaux faibles sur la possible commission d'un attentat par la branche tadjik, d'ailleurs, de l'État islamique au Khorasan. Eh bien, pourquoi on n'en tient pas compte? Tout simplement parce que l'émetteur, c'est l'ennemi systémique. Et donc, le fait que les avertissements viennent de Washington, c'est vraisemblablement une sorte de stratagème pervers, retors, un calcul de l'ennemi.
Alors, évidemment, c'est intéressant pour nous d'essayer de lire ce quelle est la ligne, et puis visiblement elle est compliquée à trouver, de la Russie vis-à-vis de cet attentat à Moscou, parce que certains peuvent imaginer qu'il y aura une riposte, et peut-être même qu'elle a déjà commencé, une riposte de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, justifiée par cet attentat. Pierre Haroche, sur la lecture qui est faite et les leçons qu'on peut en tirer pour la suite, au fond.
Je pense que la grande question, c'est dans laquelle mesure ils croient vraiment à cette histoire. Parce que nous, les Français, par exemple, on est capable de naviguer dans un univers complexe, de dire on a plusieurs menaces qui viennent de directions différentes. Lorsqu'on a eu des attentats sur notre sol, la doctrine de l'armée française, c'était on doit faire face au terrorisme sur notre sol, on doit se battre contre l'État islamique au Moyen-Orient, et puis on doit aussi avoir un œil sur la Russie, et c'est des menaces de nature différente, militairement aussi. Les Russes, effectivement, ils ont souvent cet esprit qui est très hérité de la guerre froide, qui est de dire tout remonte de façon pyramidale aux Occidentaux et in fine à Washington. Alors, si c'est simplement de la propagande pour justifier la guerre, c'est une chose, mais je ne suis pas certain. Parce que j'ai l'impression qu'ils font souvent la même chose aussi avec les Européens. C'est-à-dire minimiser le rôle des Européens en disant finalement c'est des pantins, on s'en fiche, c'est les Américains qui comptent, on ne veut parler qu'aux Américains. Et je me demande dans quelle mesure ça n'est pas une façon de projeter sur le reste du monde la façon dont fonctionne la Russie elle-même. C'est-à-dire la Russie est un système très pyramidal, on fait rien sans le patron, et donc c'est une façon de se dire, mais à l'étranger, dans le reste du monde, ça doit être comme ça, il y a forcément quelqu'un qui a appuyé sur le bouton, qui a donné son autorisation. Et dans ce cas-là, ce serait une preuve de faiblesse, parce que dans un monde complexe, il faut être capable de jongler avec des acteurs différents, des menaces différentes. Ouais. Tout n'est pas organisé
Il a quand même reconnu l'implication de l'islamisme radical, comme il l'a dit.
Soutenu par les États-Unis.
Etc. Annie de Menton.
Oui, on a le sentiment depuis cette réunion finalement avec le FSB, le Conseil de sécurité, de revivre la scène primordiale de 2022 où Poutine avait convoqué, pareil, les responsables du FSB, du Conseil de sécurité et leur avait dit « bon, on est d'accord ». Et donc, vous savez, il y a deux choses qui me frappent, c'est que d'une part, on a une sorte de réédition du début de la guerre.
Dans quoi ? Pourquoi vous dites ça ?
Avec le retour des frappes sur l'ensemble du territoire ukrainien depuis déjà plusieurs jours.
Après
l'attentat,
d'accord.
Mais déjà avant. Et donc on a le sentiment que l'attentat a servi de zone de rattrapage pour finalement un scénario qui était déjà
d'accord.
En place. Excusez-moi. Mais déjà le deuxième volet de la guerre était déjà ouvert. Structuré avec la structuration de l'État russe, les résolutions de la Douma, les lois liberticides, etc. Il y a quelque chose qui est mis en place. Et puis intervient l'attentat et il faut, ma foi, rattraper les mailles.
Général Patrick Dutartre, sur cet aspect-là, et encore une fois... évidemment qu'on essaie toujours maintenant de lire Poutine dans le texte, etc. Mais j'estime, peut-être je me trompe, que c'est intéressant pour nous d'essayer d'anticiper ce qui peut avoir après. Quelles leçons il peut tirer de cet attentat et quelle action peut-il du coup décider après cela ? Est-ce que c'est le cas ou pas d'ailleurs ? Je ne sais pas.
Ça fait deux ans qu'on essaie de lire en fait, dans la tête du président Poutine. Moi, ce qui m'a interpellé, il y a trois choses qui m'ont interpellé. C'est d'abord ce qu'avait dit d'abord à l'époque William Burns, le patron de la CIA, en disant « Le problème avec Poutine, c'est qu'il croit à son propre narratif.
Oui, » bien sûr.
Donc, il essaie d'émettre un narratif. La seconde chose qui m'a surpris, c'est la sortie de Patrouchev. Il n'a fait aucun commentaire pendant deux ans.
Il a dit bien sûr que c'est l'Ukraine.
Alors, en passant comme ça, c'est pas une conférence de presse, en passant comme ça, bien sûr, c'est l'Ukraine.
Et pourquoi ça, c'est un problème qu'il le fasse comme ça ?
Non, mais on ne sait pas si c'est un mode dérisoire, s'il croit vraiment à sa chose.
Ah oui, s'il y a de la malice dans ses propos.
C'est comme s'il y avait une malice, mais il ne pouvait pas dire autre chose que ce que pense le tsar. Et la troisième chose, c'est le FSB, qui s'exprime aussi pas souvent. Et lui, c'est pareil, il s'aligne. Il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole du chef. Et moi, ce qui me préoccupe quand même, c'est que tout l'apparatchik, tout l'appareil de renseignement est aligné sur la parole du chef, sur ce commandement.
Mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, en général.
Mais du coup, il n'y a aucune critique, il n'y a rien du tout. Il s'auto-alimente, si vous voulez. Oui. C'est forcément la vérité, parce que le chef le pense.
Avec vous, Paul Gogo, sur du côté de la rue russe, je ne sais pas si elle existe d'ailleurs, et si quelles leçons, eux, tirent-ils de ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils attendent. Comment ont-ils reçu ces images extrêmement brutales et cette exhibition des prisonniers vraisemblablement torturés, maltraités, qui ont été montrés, ce qui est assez inhabituel. Est-ce que c'était une façon de dire au peuple russe, regardez, on agit et on avance ?
Alors, il faut, je pense, se rendre compte du fait que le pays est en guerre depuis 2 ans et que, mine de rien, même si les Russes ont l'air de ne pas s'y intéresser à cette guerre ou, au contraire, pour d'autres, de la soutenir au maximum, beaucoup font autruche et les autres les soutiennent, et bien même s'ils ont l'air d'avoir cette attitude, en fait, le fait est que la population vit dans la peur depuis 2 ans, depuis le début de la guerre. Donc cet attentat, il intervient dans cette situation. Et au lendemain d'un attentat, on l'a connu en France, il y a un sentiment de terreur, il y a beaucoup d'émotions. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Alors moi, j'étais déjà correspondant à l'étranger, mais en fait, c'est une émotion en ce moment qui est certainement comparable à celle de l'après-Bataclan, parce qu'il y a eu cette comparaison qui a été faite. Je peux vous dire, j'étais encore hier devant le focus là où il y a eu l'attentat. Il y a des gens toute la journée qui viennent, qui défilent, qui pleurent. Et donc, forcément, dans les témoignages, on entend des gens qui veulent une vengeance. Et donc, je pense que le pouvoir a répondu aussi par ces images de torture avec cette demande de vengeance et qui anticipe aussi peut-être les critiques parce que tout le monde se demande aussi, au fond, pourquoi et comment surtout tout ça a pu avoir lieu à Moscou, capitale ultra-surveillée. Et donc, je veux vous préciser parce que je sais que ce n'est pas forcément évident vu de France, mais que même pour les Russes, pour vous dire ça comme ça, ces images de torture, ce n'était pas quelque chose d'anodin et les Russes ont été choqués ou étonnés pour certains ravis, mais surtout choqués certainement de voir ces hommes débarquer dans cet état-là, dans un tribunal, avec, je rappelle, l'un d'entre eux était en chaise roulante et l'autre avait quand même encore son sac plastique autour du cou. C'est fou, même vu de Russie.
En tout cas, Vladimir Poutine a fini par reconnaître du bout des lèvres l'implication des islamistes dans l'attentat de Moscou, mais le Kremlin estime que cela a été facilité par les services spéciaux occidentaux et que le renseignement ukrainien est directement impliqué. Mathieu Lignot, Nicolas Baudry-Dasson.
Voici les images d'un des derniers suspects arrêté pour l'attentat de Moscou la semaine dernière. Pour la première fois, Vladimir Poutine reconnaît que l'État islamique est responsable de l'attaque qui a fait plus de 130 morts. Mais il pose une question.
Le travail conjoint de nos services spéciaux et de nos agences chargées de l'application de la loi devrait apporter des réponses à un certain nombre de questions. Par exemple, les organisations islamiques radicales, voire terroristes, sont-elles réellement intéressées à frapper la Russie ?
Car sa stratégie est toujours la même. Entretenir le flou, nourrir son récit. Malgré les preuves contre l'État islamique, le président russe raconte à qui veut l'entendre que ce sont les Ukrainiens qui auraient tout organisé. Et les responsables de la sécurité du pays sont aussi directs. Le I ou l'Ukraine ?
L'Ukraine.
Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par les islamistes radicaux eux-mêmes et a été facilitée par les services spéciaux occidentaux. Quant aux services ukrainiens, ils sont directement impliqués, c'est une certitude.
Le directeur du FSB aurait pourtant été mis en garde par les services de renseignement américains de l'imminence d'un attentat. Alors du côté de Washington, on apprécie peu ces accusations de complicité avec les terroristes.
Nous sommes très clairs sur ce sujet. Le 7 mars, nous avons averti publiquement les Américains en Russie. L'État islamique porte seul la responsabilité et M. Poutine comprend ça. Nous avons partagé ces informations avec son gouvernement. Il n'y a absolument aucune preuve que l'Ukraine est impliquée.
La France a proposé de coopérer avec les services russes contre l'État islamique. Interpol également. Mais cette aide n'est pas la bienvenue pour Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.
Les dirigeants d'Interpol ont soudainement annoncé qu'ils étaient prêts à participer à l'enquête. Leur enquête visera très probablement à promouvoir une théorie qui convient à l'Occident. À savoir que l'État islamique l'a fait et que l'Ukraine n'a rien à voir là-dedans. Nous n'avons guère besoin d'une telle aide.
Depuis l'attentat de vendredi dernier, l'armée russe multiplie les frappes en Ukraine. Des drones, des missiles en tout genre visent des infrastructures énergétiques et des civils. Les habitants de Kiev et de toute l'Ukraine retrouvent le chemin des abris.
Il s'agissait vraisemblablement d'un missile balistique. C'était un Zircon. qui n'a pas déclenché l'alarme aérienne parce que sa vitesse est très élevée. Explosion ici, dans un quartier résidentiel. Un établissement d'enseignement a été détruit.
Certains missiles russes sont interceptés par la défense anti-aérienne ukrainienne. Des équipements en partie fournis par la France. Hier, Sébastien Lecornu demande des efforts à l'industrie de l'armement et met la pression.
Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire, c'est-à-dire si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le cas échéant.
La France prépare un nouveau paquet d'aide militaire pour l'Ukraine. L'objectif est de lui livrer 80 000 obus cette année.
Et cette question de Loïc, et on va revenir sur ce passage peut-être en économie de guerre, et puis sur les missiles polonais qui inquiètent énormément à Varsovie. Mais d'abord cette question de Loïc. Les auteurs de l'attentat de Moscou seront-ils forcés d'avouer que leurs commanditaires seront bien les Ukrainiens ?
Ça fait partie de la dramaturgie classique, hein, les aveux extorqués. On sait bien que le lampiste caucasien a beaucoup servi en Russie poutinienne depuis des années. Si vous voulez, si on élargit le spectre des possibles, je pense qu'il y a deux scénarios ineptes qu'il faut éliminer. Évidemment, une opération montée par les services occidentaux, de l'Occident global, oui. Et d'autre part, une sorte de complot du FSB lui-même pour justifier, etc. Ça, éliminons ça. Il est parfaitement clair que cet attentat, quand on regarde ses modalités, le mode opératoire, les vecteurs de revendication, la phraséologie utilisée pour revendiquer, etc., coche toutes les cases de l'attentat de l'État islamique, en l'occurrence sa branche tadjik de Khorasan. Bon. Simplement, s'il y a une certitude, quand on écoute des gens dont c'est le métier de capter tout ça, et des sources, comme on dit dans le jargon, concordantes et bien...
Qui essaient de savoir. Contrairement à ce que dit Lavrov, qui dit ça ne nous intéresse pas.
Qui savent. C'est-à-dire que, à mon avis, les flottements qu'on évoquait tout à l'heure, c'est aussi le temps nécessaire pour la fabrique du mensonge, pour trouver des indices qui vont étayer la thèse officielle. Mais en l'occurrence, encore une fois, ceux qui suivent ça de très près sont parfaitement convaincus que le commanditaire est connu, que c'est un homme jeune, de moins de 30 ans, quelqu'un qui navigue entre l'Afghanistan, le Pakistan et puis l'Iran, de manière évidemment clandestine, et que ce sont les mêmes commanditaires que ceux qui avaient, au fond, ordonné un attentat fracassant en Iran, puisque l'autre grand ennemi de l'État islamique, c'est l'Occident impie, mais c'est aussi le monde chiite. C'était à la faveur, si j'ose dire, d'une cérémonie en hommage à Qassem Soleimani, un général des forces des gardiens de la révolution iranienne, attentat ravageur, plus de 200-250 morts en janvier dernier. Et donc, en réalité, le discours russe ne tiendra pas, parce que, en fait... tout est signé.
Ne tiendra pas pour nous, mais pour le Kremlin, on a bien compris avec vos explications qu'il tiendra et que ce sera une légende qui sera vendue au peuple russe.
Avec une toute petite nuance, et je m'arrêterai là, par rapport à ce que Paul Gogot nous disait tout à l'heure, c'est que l'agence France-Presse a diffusé cet après-midi une dépêche assez détaillée où on voit, on entend des Russes qui, à visage découvert et sous leur nom, disent « j'achète pas cette version ».
Ah, Paul Gogot, sur ce qui vient d'être dit, sur la façon dont les Russes reçoivent cette explication, et puis peut-être au-delà, est-ce qu'il y a une forme d'état de choc du pays, et est-ce que la population russe attend, espère, souhaite, vous parliez tout à l'heure de vengeance, en tout cas, une riposte, quelque chose qui ressemble à une réponse de Vladimir Poutine à ce qui s'est passé sur son territoire?
Oui, alors c'est effectivement la difficulté, notamment quand on est correspondant en Russie, de comprendre à quel point la population va adhérer à un mensonge que nous, correspondants étrangers, on comprend, mais eux n'ont pas forcément accès à toutes les données pour comprendre que c'est un mensonge ou non. Moi, j'étais assez inquiet de voir aussi que tout ça arrivait dans un climat, donc, comme on le disait tout à l'heure, de terreur liée à la guerre d'un côté, et puis ensuite liée à cet attentat. Donc, dans la peur, dans l'émotion, vous pouvez être amené à croire aux choses qui sont les plus simples. Évidemment, tout le monde a certainement... Je raccourcis un peu la chose parce que c'est pas forcément comme ça que c'est passé, mais je pense que tout le monde a au moins une pensée pour l'Ukraine, parce que le drame qui secoue la Russie depuis deux ans, c'est l'Ukraine, et notamment les bombardements qui ont lieu dans la ville de Belgorod. Finalement, les moscovites, on se rend compte qu'ils connaissent tout ça, qu'ils sont au courant de tout ça. Pour autant, les Russes sont pas stupides, ils comprennent bien que des bombardements à Belgorod, c'est pas la même méthode qu'un attentat terroriste avec des gens abattus dans une salle de concert, même si les autorités russes, et ça il faut faut le rappeler, considère et nomme à chaque fois les bombardements ukrainiens sur le territoire russe comme des attentats terroristes. Et donc c'est comme ça que la propagande parvient à tout mélanger. Et donc je pense que comme d'habitude, la population ne va pas forcément adhérer en masse à tout ça, mais le doute va planer, c'est-à-dire que les Russes vont vivre avec deux théories, la théorie des Occidentaux, la théorie du Kremlin, et après à vous de choisir avec le temps ce qui vous plaira le plus.
Est-ce qu'il va y avoir une riposte? C'était ma deuxième question. Est-ce que les Russes s'attendent à une riposte? Est-ce que de ce que vous savez, il y aura quelque chose qui sera, j'allais dire vendu, qui sera expliqué aux Russes comme étant la réponse du Kremlin à ce qui s'est passé?
C'est ce qui est glaçant avec cette situation, parce que l'attentat intervient sûrement peut-être un peu... Enfin, sûrement par hasard après cette élection présidentielle, mais en fait les Russes avaient déjà ça en tête pendant la présidentielle, en se disant après la présidentielle il va se passer quelque chose dans notre pays, Vladimir Poutine va augmenter la répression, va certainement lancer une offensive sur l'Ukraine, et là avec cet attentat on comprend que Vladimir Poutine il a tous les outils pour la lancer tout en étant soutenu par sa population, et je l'ai entendu effectivement dans la foule, il y a plein de gens qui ne veulent pas en parler, qui ne veulent pas s'exprimer, et puis parfois vous tombez sur des gens qui vous disent oui bien sûr que c'est l'Ukraine et oui il va falloir qu'on réponde à cette attaque.
Dans ce contexte-là, dans ce moment-là, cette déclaration qu'on a vue passer dans le reportage du ministre des Armées, qui dit pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement, la DGA, de faire des réquisitions. Est-ce que ça veut dire qu'on accélère, qu'on change de braquet? Encore une fois, on est dans le contexte qu'on vient de décrire, et puis on va revenir dans un instant sur ce qui s'est passé en Pologne et qui a énormément tendu les membres de l'OTAN, avec vous Pierre Haroche sur cet aspect-là. Est-ce que ça raconte quelque chose ou une étape de plus de l'engagement des Européens?
Oui, mais je pense qu'il y a aussi un lien avec ce qu'a dit le président Macron il y a quelques semaines, ouais, sur le fait que l'Ukraine c'était existentiel. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté ce qui se passe en Ukraine c'est existentiel, mais en même temps il ne faut pas trop chambouler nos entreprises et il faut qu'elles continuent à avoir leur carnet de commandes comme d'habitude. C'est tout à fait légitime quand on fait face à un conflit de cette envergure, de dire on va faire effectivement des réquisitions. Et j'ajouterais qu'en réalité, l'échelle pertinente pour penser ça, c'est évidemment au niveau européen. La Commission européenne a aussi proposé, alors il ne parle pas de réquisition, mais il parle de passer des commandes en priorité, c'est-à-dire s'il y a un problème, s'il y a un État qui n'arrive pas à obtenir les commandes qu'il voudrait, on peut, avec des outils législatifs, juridiques, dire bah, ça passe en priorité, donc vous êtes obligé de le servir avant d'autres commandes que vous pouvez avoir, parce qu'effectivement, si on fait passer des commandes civiles avant des commandes militaires, oui, c'est un problème. Si on fait passer même des commandes pour l'exportation en dehors de l'Europe avant les commandes qui sont faites pour les Européens et pour les Ukrainiens, là aussi c'est un problème. Donc il y a des outils réglementaires pour répondre à ça. Et j'ajouterais simplement que ça, c'est une chose, cet aspect réglementaire. Mais après, l'autre grand débat, c'est l'aspect financier. Parce qu'on est dans un contexte où, effectivement, il ne s'agit pas simplement de dire « allez-y, donnez la priorité à nos commandes ». Il faut faire des commandes, et il faut faire des commandes avec une masse critique importante, et il faut les faire de façon agrégée pour avoir un maximum d'économies d'échelle et d'effet d'entraînement sur l'industrie. Mmh. Et ça, juste pour dire, l'effet, le débat crucial là, c'est la question d'un emprunt européen. Parce que ce n'est pas chaque État dans son coin qui va dire « je vais dépenser, peut-être que les autres vont dépenser plus, je vais m'endetter dans mon coin ». Ça crée un système de problèmes d'action collective où chacun compte sur la dépense des autres pour ne pas avoir à dépenser soi-même. Donc ce qui est important, c'est qu'on le fasse tous ensemble en même temps.
Et certains peuvent plus dépenser que d'autres, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, mais l'emprunt européen, c'est un système où ça repose sur l'Union européenne en fonction des moyens. Et ça, c'est un débat qui avance beaucoup parce qu'au dernier Conseil européen, grosso modo, il n'y avait plus que les Allemands et les Néerlandais qui étaient vraiment contre. Donc là, il y a vraiment un sujet en termes d'achat.
Ce n'est pas rien, Pierre Haroche.
Non, mais
les Allemands ne sont pas favorables à un emprunt européen. Du coup, ça bloque un petit peu.
Oui, mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là.
Général Patrick Dutart, sur cet aspect-là et sur ce qui ressemble à une accélération, on va évoquer dans un instant ce qui se passe aussi sur le terrain, l'accélération de la France sur les réquisitions.
Oui, alors le mot réquisition, j'ai trouvé
un peu fort,
pas forcément le mieux adapté.
Pourquoi?
Mais effectivement, parce qu'il y a plus des priorités. Il y a réquisition lorsqu'il n'y a pas bonne volonté, parce qu'il y a un problème. Mais il n'y a pas de problème avec les entreprises. Simplement, il faut qu'ils aient des carnets de commandes extrêmement clairs, que ce soit annoncé. Et puis ces entreprises qui ne vivent pas que du militaire, ils vivent du privé aussi également. Là, on fait un énorme effort. Et donc, par contre, qu'il y ait des priorités compte tenu d'une urgence nationale, européenne, otanienne, ça on peut le comprendre, et ça je trouve que c'est très important. Et pour compléter ce que dit Pierre, moi, c'est bien que la feuille de route qu'a donnée Sébastien Lecornu permet à tout le monde de s'aligner sur des enjeux, sur des matériels, et ça c'est très bien, je trouve que ces explications étaient très claires, mais effectivement ça s'inscrit dans une autonomie stratégique militaire pour l'Europe. Et pour mon avis, c'est ça qui est fondamental.
Et c'est ça qui n'avance pas ?
Non, au contraire. Et il faut que tous les pays se mettent autour de cette autonomie stratégique. Mm. Avec les incidents et avec les déclarations du président américain,
Donald Trump.
Enfin, l'ex. Et j'espère pas le futur, d'ailleurs. C'est important que l'Europe prenne son destin en main à tous les niveaux. Et ça, c'est important.
Et elle est en train de le faire, à vos yeux, général ?
En tout cas, jamais, malgré le contexte tragique, si vous voulez, c'est une opportunité pour l'Europe, justement, de franchir des étapes qu'on n'avait jamais vues après 50 ans d'Europe.
Absolument. Parce que pour l'Ukraine, et même cette promesse-là n'a pas abouti.
Les lignes bougent.
C'est en route.
Vous avez par exemple une initiative qui a été portée par le président tchèque, Petr Pavel, qui au passage est un ancien général qui connaît très bien l'OTAN de l'intérieur, qui consiste à identifier, mais hors Europe et hors OTAN, des stocks d'obus de 155, le calibre requis pour l'armée ukrainienne, et pour les acquérir, trouver des financements. Apparemment, les financements ont été trouvés pour 300 000 obus. Je reviens une seconde sur l'exemple de la France. L'effort qui a été détaillé par le ministre hier, j'ai assisté à cette conférence de presse, conduit par exemple à une production annuelle d'obus de 155 de l'ordre de 4 000, 4 500 à la fin de cet exercice. C'est grosso modo...
Annuel ?
Oui.
Par mois ?
Oui, oui.
Pas annuel, donc mensuel.
Ouais. Voilà, à la fin de cet exercice, par mois.
D'accord.
C'est grosso modo la consommation d'un ou deux jours de combat, donc pour mesurer. Ouais. Par ailleurs, sur la réquisition quand même, nuançons un tout petit peu. Vous savez, il en va de la réquisition comme de l'arme nucléaire, hein, c'est de la dissuasion, c'est-à-dire qu'on en brandit la menace pour ne pas avoir à s'en servir. C'est une manière de faire pression sur les industriels. Mais il a effectivement plus détaillé ce qu'il appelle la priorisation, c'est-à-dire vous avez une industrie duale, vous faites du civil, du militaire, eh bien, si on vous le demande, vous devez prioriser la ligne militaire.
Oui.
L'économie de guerre est une fiction. La France n'est pas en économie de guerre. La Russie l'est.
Ce qui est étonnant, c'est parfois comme deux volontés se heurtent quand on entend que les mêmes 27 sont en train, et je me tourne vers vous, Annie de Banton, savoir comment ça peut être reçu en Ukraine, les 27 sont en train d'examiner un texte sur le plafonnement de certaines importations agricoles venant d'Ukraine, la France ayant souhaité étendre ses restrictions au blé. C'est-à-dire, d'un côté, évidemment, on livre des armes parce qu'il y en a besoin et on fait davantage que vous venez de nous expliquer. De l'autre, on a une colère sociale qui s'exprime et on est obligé de serrer un peu la vis.
C'est un très, très gros problème. Parce que là, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une sorte d'anticipation de l'entrée de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui n'est pas encore le cas, loin de là. Et donc, il y a une espèce de fermeture qui se met en place, alors que, pour l'instant, le problème n'est pas là, d'autant que, peut-être il faut dire deux mots quand même de ce qui est en train de se passer sur le fait que la route des céréales fonctionne maintenant comme avant-guerre. Donc, les Ukrainiens arrivent par la Roumanie à exporter leur blé, apparemment sans grande difficulté, et que peut-être on peut dire deux mots sur les Polonais.
On va en parler ce soir.
Voilà, qui sont entre deux régimes, avec ce régime ultra-conservateur qui vient de laisser la place à un régime pro-européen et qui a gardé la mauvaise habitude du blocage avec des gens à la frontière qui apparemment sont un peu à cheval sur les deux. Mais juste un petit mot, il faut rappeler aussi les routes de la solidarité de l'Union européenne. Oui. C'est-à-dire le fait que le front de l'Europe centrale et orientale se trouve pour l'instant face à une réalité qu'elle n'avait jamais connue jusqu'à présent. C'est-à-dire difficulté absolue, la Roumanie qui se retrouve avec une base de l'OTAN. Ouais. La Moldavie,
l'une des plus grandes bases de l'OTAN peut-être.
Voilà, la Moldavie qui est très courtisée, ouais, mais en même temps très menacée des deux côtés, la Pologne. Et donc on a là un défi de réalité qui se trouve pour eux dans une accélération terriblement difficile pour des pays qui allaient quand même après la guerre froide, il faut dire ce qui est, très lentement.
Et vous parlez de la Pologne, nous avons choisi ce soir de titrer cette émission sur ce qui s'est passé dimanche, j'allais dire presque un peu dans l'indifférence générale, et on va y revenir. Nous n'attendons pas la guerre, nous nous y préparons. Voilà ce qu'on attend, ce qu'on entend dans la voix des militaires polonais. Le missile russe, qui est resté 39 secondes précisément sur le territoire polonais dimanche, a été perçu comme un avertissement de plus pour un pays de l'OTAN qui se sait, vous l'avez dit à l'instant, menacé. Pour preuve, cette dernière sortie du président biélorusse qui, lui, fait part de ses plans tout simplement pour envahir la Pologne. Nicolas Bidart, Ilana Azinko.
Un peu avant 5h du matin, l'espace aérien polonais a été violé par un missile russe.
Tant que la guerre en Ukraine se poursuivra, ce type d'incident est-il amené à se reproduire?
La Pologne en état d'alerte. Dimanche, un missile de croisière russe passe au-dessus de la localité d'Ozerdov, à la frontière avec l'Ukraine. Un survol de 39 secondes et 2 km, selon Varsovie.
L'objet a été observé par les radars militaires polonais pendant toute la durée du vol. Toutes les mesures stratégiques ont été prises afin de garantir notre sécurité. L'objet a été surveillé tout au long de l'opération et retourné sur le territoire ukrainien.
Varsovie convoque immédiatement l'ambassadeur russe en Pologne pour exiger des explications. Surprise, à rebours des pratiques diplomatiques, l'ambassadeur ne vient pas et assume.
J'ai considéré qu'il était absurde de discuter de ce sujet sans que des preuves soient fournies.
Nous nous demandons si l'ambassadeur suit les instructions du ministère des Affaires étrangères de Moscou et s'il est en mesure de représenter correctement les intérêts de la Fédération de Russie à Varsovie.
L'OTAN étudierait en ce moment la possibilité d'abattre les missiles russes qui s'approchent trop de ses frontières, selon la Pologne. Tension exacerbée à nouveau entre Varsovie et Moscou. Déjà en avril 2023, des restes d'un probable missile russe sont retrouvés en forêt, à 500 km de la frontière orientale. En première ligne de la guerre en Ukraine, la Pologne est devenue la troisième puissance militaire européenne et cherche à le montrer. L'an passé, le pays organise le plus grand défilé militaire depuis la fin de la guerre froide. Son président annonce un budget de 33 milliards de dollars pour la défense en 2024, soit 4% du PIB.
L'objectif de cette grande modernisation est que l'armée polonaise soit si bien armée et que nous ayons un tel système de défense que personne n'ose jamais nous attaquer.
Renforcer son armée, le projet a débuté tout juste 2 mois après le début de la guerre en Ukraine, avec une vaste campagne de recrutement.
Allez, c'est comme ça qu'une armée se disperse. Avancez 2 fois plus vite.
Un nouveau service militaire, rémunéré avec de nombreux avantages pour les soldats. 15 000 recrues l'année dernière. Et d'ici 2033, Varsovie tape sur une armée de 300 000 soldats.
Nous n'attendons pas la guerre. Nous nous préparons pour la guerre. Si quelque chose arrive, nous serons bien équipés, bien entraînés et prêts à agir. Vous savez, la guerre de nos voisins nous montre une chose. La Russie n'a peur de personne. Elle peut vous attaquer du jour au lendemain. Vous ne pouvez jamais faire confiance à la Russie. Cette tension que vous évoquez, elle est déjà là parce qu'on sécurise la frontière avec la Biélorussie.
La Biélorussie, ce pays voisin, se montre de plus en plus menaçant vers Varsovie. Dans une récente vidéo, le président biélorusse Alexandre Loukachenko évoque carrément une éventuelle offensive en Pologne.
Juste avec vous, Paul Gogo, sur cette expression de Loukachenko. Bon, on se dit c'est Loukachenko, c'est encore une sortie de route, ou est-ce qu'il s'est à prendre au sérieux à vos yeux? Comment est-ce que vous la lisez, cette déclaration du président biélorusse?
Le président biélorusse, lui, il saisit alors déjà d'un côté toutes les possibilités de se montrer comme quelqu'un qui essaye plus ou moins d'être indépendant de la Russie sans toujours y parvenir. Et puis de l'autre, surtout pour les questions militaires, eh bien, il adhère forcément totalement au point de vue du Kremlin. Et d'ailleurs, on se demande encore quelle est sa marge de manœuvre sur les questions militaires. Et peut-être que le Kremlin lui a demandé de faire ce plan de communication comme un rappel de menace qui est toujours utile pour Moscou. Mais effectivement, lui se prêtent généralement tout de même assez volontairement à ces coups de com' qui lui permettent au moins au pays de se montrer comme un homme fort, comme quelqu'un qui maîtrise son armée et ses frontières. Mmh.
Loukachenko, traditionnellement, déploie beaucoup d'énergie pour faire oublier son statut de vassal. Et il est coutumier des sorties de cette nature, y compris en présence parfois de Poutine soi-même, le plongeant, le cas échéant, dans un certain embarras. Je me souviens d'une discussion où il disait lequel de nous est le plus grand autocrate, etc. etc. Mais et vous remarquerez au passage, puisqu'on a commencé avec ça, que sur l'attentat, il livre une version, lui, Loukachenko, qui invalide la thèse du Kremlin. Absolument. En disant que le commando ne se dirigeait pas vers la frontière ukrainienne,
mais vers la Biélorussie.
Version moscovite, mais vers la Biélorussie. Donc c'est une manière d'exister pour alléger un tout petit peu le fardeau écrasant de la suggestion qui est la sienne vis-à-vis de Poutine.
Mais il n'y a pas plus de... Je veux dire, quand on est polonais et qu'on entend ce genre de déclaration, on se sait d'ores et déjà menacé par la Russie et par la Biélorussie. Enfin, je veux dire, c'est un état de fait.
Oui, c'est un état de fait, mais franchement, aujourd'hui, je ne vois pas du tout la Biélorussie rentrer dans le jeu. Comme le dit très justement Vincent, le président a besoin d'exister en tant que premier vassal. Par contre, il est complice, hein, parce que son espace aérien est utilisé, il a accueilli pas mal de choses. D'ailleurs, lorsqu'on va revenir sur le missile polonais...
Allons-y, revenons sur ce missile polonais qui nous préoccupe ce soir, parce que j'ai une question, je vous ai coupé, mais c'est pour vous poser cette question de Valérie, je pense qu'on se l'est tous posé. Elle dit, jusqu'à hier, je pensais naïvement que si un missile survolait le territoire d'un pays, on l'abattait automatiquement. Est-ce plus complexe que cela ?
Oui, c'est plus complexe que ça. De toute manière, chaque pays est souverain, donc cherche en permanence à voir ce qui se passe dans son ciel, à détecter, identifier et contrôler. S'agissant d'un missile, c'est un tout petit avion. Un missile, il fait 8 mètres de long, il fait 50, 70 cm d'épaisseur. Oui, c'est pas gros. Alors, compte tenu du contexte avec l'Ukraine, vous avez des radars qui sont évidemment tous orientés vers l'arrivée de l'Ukraine, à la fois les radars polonais. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont bien détecté ce missile, qu'ils l'ont suivi très précisément pour annoncer 39 secondes. Mais vous voyez ce missile, en fonction de l'altitude, arriver au-delà de la frontière, bien évidemment. C'est-à-dire que vous avez un préavis si vous le détectez suffisamment loin. Et même chose avec les radars AWACS, les radars volants que nous avons à la fois dans l'OTAN et à la fois en France pour détecter très loin. Alors ce missile, après, est-ce qu'il vous est destiné ou pas ?
À partir du moment où il rentre dans le territoire et qu'il passe la frontière.
Parce que c'est pour ça qu'il serait très intéressant d'obtenir sa trajectoire. Ça, c'est intéressant parce que déjà, vous identifieriez d'où vient le lanceur, c'est-à-dire c'est un avion de combat qui a lancé ce missile. Est-ce qu'il est venu de la Biélorussie ? Est-ce qu'il est venu du Sud ? Est-ce qu'il est arrivé face à la frontière, auquel cas c'est une menace, où il n'a fait 39 secondes, il n'a fait que tangenter...
Mais pourquoi n'est-il pas détruit à partir du moment où il franchit la frontière ? C'est un peu radical, mais...
Oui, mais alors ça, ce sont ce qu'on appelle des règles d'engagement. Vous le faites en 2 ans, il y a eu 3 incidents.
Oui.
Le premier incident, c'était justement pas un missile russe, mais un missile ukrainien, le S-300 de défense aérienne. Vous vous souvenez, ça avait créé un émoi pas possible en novembre 2022 en disant « Ah, ça y est, l'OTAN est attaqué ». Vous vous souvenez, il y avait eu une réunion pendant le G20 à Bali, tout le monde autour du président Biden, en se disant « Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Ça y est, on est attaqué ». Alors qu'en fait, ce n'était pas un missile russe, mais c'était un missile ukrainien de défense. Le second, il est assez récent, en fait, c'est 3 minutes, au mois de décembre 2023. Donc en décembre, où vous avez, lui, il est resté 3 minutes, 3 minutes 30 au-dessus de la Pologne. Malheureusement, on n'a pas la trajectographie, ça c'est aussi intéressant. Mais effectivement, on peut définir maintenant, mais c'est un choix, c'est-à-dire les propos du ministre de la Défense polonais, c'est de tirer, et même avec du préavis. C'est-à-dire que si vous avez mis fin à un accord avec les Ukrainiens, vous n'avez pas tiré au-dessus du territoire ukrainien sans avoir leur accord. Il ne faut pas non plus tirer n'importe comment, de peur que, comme ça s'est passé pour les pauvres paysans polonais, c'est que ça retombe sur une ville, que les débris... faire preuve de discernement.
Il faut faire preuve de discernement, mais on a l'impression qu'on a un peu changé de braquet, pardon de le dire comme ça, avec le vice-ministre des Affaires étrangères polonais, qu'on a entendu dans le reportage, qui dit que l'OTAN pourrait abattre les missiles russes qui s'approchent trop près. Oui. Parce que ça fait quand même 3 fois et qu'on se dit qu'il commence à jouer un petit peu avec les lignes rouges.
Oui, je pense qu'il y a 2 enjeux en fait. Il y a effectivement le fait que ça puisse entrer en Pologne et faire des dégâts, même accidentellement. Mais il y a aussi une question qui se pose, c'est est-ce qu'on est d'accord pour qu'un missile passe par le territoire de l'OTAN et ensuite arrive en Ukraine et fasse des dégâts en Ukraine ? Est-ce que, d'une certaine manière, en disant On ne fait rien tant qu'il est sur notre territoire. On ne facilite pas la vie des frappes russes contre l'Ukraine. Et ça, c'est une vraie question, parce que un missile, c'est pas comme si c'était un avion avec pilote. Abattre un missile, ça ferait pas un conflit majeur avec la Russie. Et s'il est au-dessus du ciel polonais, c'est tout à fait légitime de l'abattre. Et si ça peut éviter qu'un missile de plus tombe possiblement sur une cible ukrainienne importante, bah, ça peut aider aussi. Donc je pense qu'il y a ces deux enjeux.
Sur les précautions, souvenons-nous qu'en novembre 2022, vous avez un missile anti-aérien ukrainien dont l'explosion va causer la mort de deux villageois polonais près de la frontière. Donc je rejoins les préoccupations exprimées à l'instant. Et puisque je parle sous le contrôle d'un éminent aviateur, il en va de même lorsque vous avez une violation temporaire, fugace, d'un espace aérien. La première démarche n'est pas d'abattre l'avion, la première démarche est d'envoyer un signal, puis de l'escorter pour qu'il regagne son ciel, en quelque sorte, et quitte le vôtre. Parce que vous basculez dans autre chose. Si vous décidez, je ne parle pas du missile, mais d'abattre l'avion en question, c'est effectivement un acte de guerre qui change un peu la donne.
C'est une façon de répondre à une provocation aussi.
Mais des provocations de cette nature, il y en a, mais tous les jours, en mer Noire, au-dessus de la Baltique, dans les zones frontalières, etc. C'est aussi toujours une manière de tester à la fois la qualité technique du dispositif en face et sa résolution politique.
Et la solidarité européenne, et la solidarité, pardon, de l'OTAN.
Bien sûr.
Ouais. Mais voyez-vous, ce sont des provocations, mais en aucun cas, jusqu'à présent, aucun des appareils, qu'ils soient otaniens ou russes, ne franchit la ligne rouge. La ligne rouge, c'est les 12 nautiques, c'est-à-dire les eaux territoriales de chaque pays. Ils prennent un soin fou à ne pas écorner ça, parce qu'ils savent que là, il peut y avoir un ordre d'abattre, en fait, l'individu. Et donc, ça ne se passe pas.
Mais comment, quelle est la règle du coup de survol?
Vous êtes au-dessus des internationales. Oui. Vous avez la mer Noire.
Vous ne pouvez pas nous faire le dessin là, mais je l'aime, moi, le dessin.
Les avions, quels qu'ils soient, peuvent tourner dans la mer Noire, mais dès qu'ils s'approchent à moins de 20 km des côtes d'un pays, là, ils sont chez le pays en question. Mm. Et donc là, ça ne rigole plus.
Mais comment est-ce que vous analysez ces déclarations et ce changement de stratégie, s'il en est, d'abord, de l'OTAN? Est-ce qu'on rentre dans autre chose? Est-ce que, depuis dimanche, la Pologne, qui donne le sentiment de se préparer à la guerre, c'est ce qu'on a entendu dans ce reportage, peut exiger de l'OTAN qu'elle fixe, elle aussi, ses lignes rouges?
Je pense que c'est un sujet actuel qui se traite à l'OTAN. Pour l'instant, c'est une demande du vice-ministre des Affaires étrangères polonais. Il n'y a que lui qui s'est exprimé. Si l'OTAN, enfin si Jens Stoltenberg s'exprime, ce sera autre chose. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Citation juste très rapidement, pardon,
allez-y,
du ministre polonais de la Défense. C'est quand même une nuance qui vaut d'être mentionnée. Mais cela ne pourrait se faire, dit-il, qu'avec l'accord de la partie ukrainienne et en prenant en considération les conséquences internationales. Donc il y a quand même codicille qui nuance le côté belliqueux de son propos.
Annie de Banton, ils ont raison d'avoir peur, les Polonais?
Oui, ils ont des raisons d'avoir peur, et plus que des raisons, mais finalement, ce à quoi on assiste, c'est les sortes de préliminaires et exercices intellectuels de ce qui pourrait se passer si une attaque par mégarde ou par décision avait lieu sur un territoire de l'OTAN. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe est très important et intéressant, quels qu'en soient les résultats immédiats.
Ça veut dire que la doctrine n'est pas arrêtée?
C'est sans doute seulement qu'une question sur de circonstance qu'on l'arrête.
C'est qu'une question de circonstance, en fait. Et je pense qu'il y aurait des préavis. C'est-à-dire que si on était décideur otanien et que vous dites « bon, maintenant, c'est fini », vous en parlez avec les Russes, vous leur dites « bon, écoutez, les gars, maintenant, ça ne joue plus. Hein. Dès qu'on a quelque chose qui rentre, nous, on tire. Hein. » Au moins, vous prévenez.
Paul Gogo, de là où vous êtes, je vous repose la même question que je posais à Annie de Bonton. Les Polonais ont-ils raison d'avoir peur?
Les médias russes, oui, mais tout le monde a de bonnes raisons d'avoir peur quand on écoute les médias russes. Mais effectivement, les Polonais sont presque vus encore plus comme des traîtres que le reste. C'est-à-dire que les Occidentaux, les Européens, c'est une chose. Les Russes nous voient de toute façon comme manipulés par les États-Unis. Les Polonais et les Ukrainiens, par contre, il y a une question peut-être presque sentimentale chez les Russes qui fait qu'il y a une vraie volonté de vengeance et un vrai racisme. Et en fait, moi, je l'ai un peu vécu quand je traversais la frontière, parce que maintenant, c'est dur de se rendre en Russie, et ça m'est arrivé de la traverser dans la région de Kaliningrad par Gdansk, et c'est vrai que l'accueil, le passage de frontière se fait pas de la même façon, même qu'en Finlande ou dans les Pays-Baltes, parce que les Polonais, vraiment, vérifient beaucoup les Russes, ça prend beaucoup de temps, et on sent qu'on est dans un pays qui se méfie beaucoup des Russes.
Ils ont des raisons
légitimes pour des raisons historiques. Vous disiez en préambule, Caroline, tout à l'heure, que la Pologne était en état d'alerte maximale, mais elle l'est depuis des décennies, voire des siècles. Discuter avec un Polonais adulte de la tragédie de la forêt de Katyn, c'est-à-dire le massacre massif de milliers, voire de dizaines de milliers d'officiers et de sous-officiers polonais par les forces de Staline, massacre, carnage qui a d'ailleurs été longtemps imputé aux nazis, jusqu'à ce que Gorbatchev, lui, en 1990, finisse par admettre que c'était évidemment l'Union soviétique. Pour un Polonais, on est dans un état de suspicion légitime. Ce sont les pays de la ligne de front, avec les Baltes, qui ont aussi, eux, d'excellentes raisons de se méfier de leurs voisins de l'Est.
Je ne sais pas si vous avez vent de ce rapport relayé dans les médias allemands qui explique que la Russie serait en capacité d'attaquer un pays de l'OTAN dans 2 ans. Que valent ce genre d'études ?
Moi, je pense que c'est important de se mettre dans cet état d'esprit, mais la réalité, c'est que ça dépend exactement de notre comportement à nous.
Oui, absolument.
C'est-à-dire que la Russie ne prend pas sa décision dans l'absolu sans tenir compte de l'environnement stratégique. Nous participons à forger la résolution, les occasions qui se créeront ou pas pour les Russes. Donc, c'est tous les signaux qu'on peut envoyer en termes de solidarité, de fermeté vis-à-vis de la Russie, ça joue. Au contraire, évidemment, si on envoyait des signaux d'irrésolution, de faiblesse, ben ça serait une occasion à prendre. C'est pour ça que quand on a des débats en France sur la paix, la façon de poser la question de la paix, c'est pas un sujet tabou, mais c'est sûr qu'il faut être conscient du fait que les Russes, et ça c'est quelque chose aussi de très typique des Russes, ont souvent tendance à prendre la volonté de dialogue comme une preuve de faiblesse qu'il faut exploiter immédiatement. Ouais. Donc c'est comme ça aussi qu'on façonne...
Vous parliez de dissuasion et de la réponse à la fois de l'Europe et de l'OTAN. Peut-être regardons cette carte sur cette base géante, on va le dire comme ça, de l'OTAN qui devrait voir le jour en Roumanie, située au bord de la mer Noire. Elle sera à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine et de la Crimée, et elle pourra accueillir 10 000 soldats de l'Alliance Atlantique et leurs familles. Ce sera la plus importante base de l'OTAN en Europe. Ça aussi, c'est un signal de positionner des forces clairement sur cette partie-là du territoire.
Absolument, et d'ailleurs c'est la grosse inquiétude toujours, l'obsession poutinienne, c'est-à-dire qu'ils se sentent agressés en permanence par l'OTAN, mais avec tout ce qu'il nous a fait depuis 2 ans, on peut comprendre que l'OTAN décide de marquer le terrain et de dire maintenant, la ligne rouge c'est vraiment les pays de l'OTAN.
C'est le test ultime, l'Ukraine, moi je rejoins totalement Pierre Arroche, c'est-à-dire que s'il y avait un signal explicite ou implicite de lâchage de l'Ukraine par l'Alliance Atlantique, ce serait évidemment le chemin le plus court vers le coup d'après. Et donc, ce n'est pas aujourd'hui que Poutine va décider d'attaquer un pays de l'OTAN. Il n'en a pas les moyens. Il a son obsession ukrainienne et en fonction de la riposte qui lui sera opposée, eh bien, il considérera que oui ou non, il peut aller au-delà.
Juste un mot sur l'ambassadeur qui refuse de répondre à la convocation. C'est pas grave.
Jean de Glignasti, qui est un ancien ambassadeur de France à Moscou, disait hier qu'en 40 ans de carrière diplomatique, il n'avait jamais vu ça. Vous pouvez traîner les pieds, vous pouvez envoyer un second couteau, un premier conseiller, etc. Mais dire avec un ton hautain et méprisant, je ne viendrai pas, c'est d'autant plus cocasse d'ailleurs qu'il invoque le fait que les Polonais n'ont pas fourni de preuves, alors que les preuves sont là. Tout a été capté par les satellites, par les radars, etc.
Donc les de preuves sur le fait que le missile soit resté sur leur
preuve. C'est-à-dire qu'ils accusent l'Ukraine sans preuve pour le carnage de Moscou, mais en revanche, ils exigent des Polonais des preuves pour déférer à une convocation de cette nature.
Alors, en tout cas, sur le terrain, la guerre dure et l'armée ukrainienne endure. Outre le manque d'armes, c'est au manque d'hommes auquel est maintenant confronté Kiev. Mobiliser est devenu une urgence et aussi un problème politique intérieur, un sujet de crispation dans la population. Le temps des engagés volontaires semble bien loin. Reportage sur place, Magali Lacroze et Pierre Dehorne.
Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens plantent jour après jour des drapeaux sur la place Maïdan. Un drapeau, c'est un soldat mort au front. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers. Volodia vient d'en ajouter un pour son frère d'armes. Ils avaient le même prénom, ils venaient du même village.
C'était un de mes meilleurs amis, il était tankiste.
Vers Robotin, un jour il y a eu plusieurs frappes de suite. Il a voulu évacuer ses camarades et ils ont frappé encore et encore. Et voilà.
La douleur d'un soldat après 2 ans de service. Volodia a 60 ans. Il n'a plus l'âge de se battre, mais il veut continuer. Il est à Kiev pour quelques jours, le temps de passer une nouvelle visite médicale, puis il retournera vers Sloviansk.
Nous avons besoin d'obus. Je sais de quoi je parle, je suis dans l'artillerie. Allez, je dois y aller.
Comment tenir quand la guerre s'éternise? L'Ukraine manque d'armes, mais aussi de soldats.
Trop
mûr. Il n'y a que des vieux ici. Ah, il s'est enfui. Il est assis là-bas, non?
À Tcherkassy, dans le centre de l'Ukraine, ces binômes de recruteurs sillonnent les rues à la recherche d'hommes de 27 à 60 ans. Tous doivent être recensés pour un jour peut-être être mobilisés.
Bonjour, administration militaire du Tcherkassy, quel âge avez-vous?
47.
Ah, êtes-vous dans nos registres?
Oui.
Montrez-moi les documents officiels, s'il vous plaît.
Non, mais je les ai perdus.
L'homme assure aux militaires qu'il va se faire opérer et qu'il ne pourra en aucun cas être mobilisé. Mais une recherche rapide de nos recruteurs dans leur base de données prouve le contraire.
Cet homme a 47 ans, il a donc l'âge d'être mobilisé, de faire partie de la réserve. Mais il nous dit qu'il a perdu ses papiers militaires, qu'il est malade. À nous de vérifier s'il est recherché, mobilisable ou exempté. Dans nos registres, une convocation est déjà prête pour lui. Donc il peut être mobilisé.
Aux premières heures de la guerre, les volontaires pour le front étaient nombreux. Aujourd'hui, les choses ont changé. La population est traumatisée.
Je n'ai pas de mots pour vous dire ce que je ressens. J'étais à Tcherniv au début de la guerre. Nous vivions dans la peur, dans un abri. Quand on est sorti, on a vu tous ces corps dans la rue. Alors je ne sais pas si psychologiquement je suis prêt pour aller me battre. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Qui est 100% prêt à y aller?
Bonjour, pardon, je suis très en retard. Je suis en règle, hein, mais je suis très pressé.
Vous avez quel âge?
28 ans. Je n'ai pas pris mes papiers. Je suis très pressé. Prenez mon numéro et vous me rappellerez?
Non. Ça ne marche pas comme ça.
Les recruteurs ont l'habitude. Des mensonges des uns, de la colère des autres. Dès qu'ils débutent leur patrouille, leur présence est immédiatement signalée sur des boucles Telegram et ça va même plus loin.
Regardez là, ils ont écrit « Tu vas recevoir une couronne funéraire » ou « À mort ». Ils nous menacent, alors qu'ils ne savent pas que nous, les recruteurs, on vient du front. On a vu et vécu beaucoup de choses. Ici, à Tcherkassy, on est au centre de l'Ukraine, loin du front. Les gens ne voient pas la guerre. Ils disent « je tiens avant tout à ma vie ». Mais comment tu peux dire ça? Moi, j'ai perdu ma santé pour protéger l'Ukraine.
Depuis quelques mois, les autorités ukrainiennes tentent de rajeunir l'âge de mobilisation de 2 ans. Mais le projet de loi est bloqué au Parlement et la population fatiguée après 2 ans de guerre.
Un reportage de Magali Lacroze et Pierre Dehorne qui vous a tous laissé sans voix hein, sur cette jeunesse qui essaie maintenant de raser les murs pour ne pas y aller. Mmh. Annie de Menton.
C'est un problème extrêmement compliqué sur place. Bon, donc pour le factuel, le Parlement ukrainien est en train de statuer sur ce changement. Il y a 700 amendements. C'est dire à quel point, je dirais d'une part, le Parlement fonctionne, et d'autre part, combien la réforme est contestée. C'est très compliqué. En ce moment, ils sont en train d'imaginer différentes formes pour réengager la population et justement ne pas donner ce sentiment d'être obligé de raser les murs pour ne pas y aller. Ouais. C'est de recruter les gens en fonction de leur spécialisation d'origine et leur donner la perspective d'après. C'est-à-dire sortir de « on y va pour crever », en gros.
Hein,
okay. Excusez-moi, mais c'est à peu près ça. Et donc, il y a à la fois cette envie de redonner du sens à l'engagement, et par ailleurs, ils font une loi sur ce qu'ils appellent les vétérans, c'est-à-dire des jeunes vétérans, leur donner les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous allez en sortir et quels sont les émoluments auxquels vous pourrez aspirer. Donc tout ça est évidemment extrêmement douloureux, compliqué, et beaucoup aussi refusent d'y aller parce qu'on n'a pas d'armement.
Bien sûr, il le dit.
Vous voulez qu'on s'engage, on n'a pas d'armes.
On l'a vu dans le reportage, il est très ému, il est au bord des larmes et il dit « on manque d'obus, je sais de quoi je vous parle, je suis dans l'artillerie ».
On est patriote, la question n'est pas là. Et on n'a pas d'armes.
Votre réaction, général Patrick Dutarte ?
Oui, c'est un sujet extrêmement douloureux parce que vous touchez en fait les entrailles de la société en fait et on voit de tout. Il y a les gens courageux, les premiers volontaires et puis maintenant les gens cherchent à évacuer. Moi, je pense que le président Zelensky aurait dû faire ça plus tôt. En tout cas, essayer de mettre en route cette mobilisation. Je pense également que c'est une des raisons pour laquelle il y a eu la séparation avec le général Zaloujny.
Oui, ça a beaucoup valsé dans l'entourage de Zelensky ces derniers mois.
Oui, et le général Zaloujny était parfaitement conscient de ce besoin, si vous voulez, d'avoir des troupes fraîches et donc mobiliser un peu plus jeunes. Et ça, je pense que c'est malheureusement incontournable. Et on voit les douleurs que ça représente.
Très vite, allez-y.
Oui, et je rejoins aussi Annie de Banton. Depuis le début, ils ont essayé de trouver des méthodes un peu innovantes, c'est-à-dire vous pouvez vous engager avec vos amis, par exemple, et être sûr que vous serez avec vos amis sur le front. Ou vous pouvez vous engager en demandant à être envoyé dans la région d'où vous venez pour pouvoir libérer votre village à vous.
Ah oui,
donc tout un tas de trucs à la carte pour que les gens aient l'impression qu'on essaye aussi de prendre en compte au maximum leur motivation d'engagement et pas simplement de les envoyer comme un troupeau.
Il est difficile pour nous, vu d'ici, de mesurer l'épuisement moral et physique de combattants qui parfois ne sont pas rentrés chez eux depuis 12 ou 18 mois et qui, de plus, sont hantés par l'hypothèse d'un abandon qui se traduit notamment par les pénuries de munitions. Et tout cela, évidemment, a contribué aux tensions entre le président Zelensky et son entourage, puisqu'on évoquait à l'instant Zaloujny, donc l'ancien chef d'état-major,
qui était adoré par les
ambassadeur à Londres. Mais pas plus tard qu'hier, Zelensky s'est séparé du chef de son renseignement extérieur, qu'il a remplacé par le numéro 2 de Kirillo Boudanov, le patron, lui, du renseignement militaire. Donc on voit qu'il y a des recadrages qui se font, et le débat tourne aussi sur le périmètre de cette mobilisation nouvelle, parce qu'il y a un besoin cruel d'hommes et de rotation d'effectifs.
Paul Gogo, rapidement, sur la mobilisation en Russie, c'est un sujet ou pas ?
C'est un sujet, c'est totalement un sujet. Dans les faits, cette mobilisation, elle a lieu à bas bruit depuis 2022. Elle continue. Il y a eu les prisonniers, d'ailleurs, des prisons, des colonies pénitentiaires vont être fermées parce que beaucoup de prisonniers ont été envoyés en Ukraine. Il y a eu les clubs de sport, il y a eu les migrants aussi. C'est un peu la quête en cours en ce moment. Et puis, surtout, il y avait cette crainte après la présidentielle. Est-ce que, justement, Vladimir Poutine ne va pas s'appuyer sur son résultat, sur son taux de participation pour lancer une nouvelle mobilisation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lendemain de l'attentat, eh bien, ça sonne presque comme une évidence. Il va y avoir une mobilisation pour permettre ensuite une nouvelle offensive sur l'Ukraine.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question de Bilal à Paris. Depuis l'attentat, voit-on des familles moscovites écumer les hôpitaux à la recherche de disparus comme à Paris après les attaques du 13 novembre ? Une question pour vous, Paul Gogo.
Oui, ça, pendant les 3-4 jours, ça a duré, effectivement. Les gens appelaient les hôpitaux, mais les pompiers ont communiqué de façon assez efficace. Régulièrement, les noms étaient mis en ligne à chaque fois que des corps étaient retrouvés, que des blessés étaient retrouvés. Évidemment, il y avait cette difficulté de cette salle de concert avec le toit qui s'était effondré sur les premières victimes. C'est-à-dire que les victimes tuées par balles se sont retrouvées au cœur d'un incendie, avec ce toit qui s'est effondré, d'ailleurs, certainement à cause de l'incendie et aussi de l'eau qui était lâchée par les hélicoptères sur ce toit parce que les pompiers ne pouvaient pas intervenir. C'était un vrai cauchemar sur place. Et donc, forcément, ça a pris un petit peu de temps, mais les pompiers avaient prévenu, ils ont beaucoup communiqué.
Les dirigeants du FSB qui ont négligé les avertissements américains ne sont-ils pas sur la sellette,
Mais c'est une très bonne question.
Bah oui.
Je pense que la réaction du FSB aussi, c'est pour masquer, si vous voulez, leur manque et ne pas avoir détecté, si vous voulez, ces menaces et ne pas avoir pris au sérieux les menaces qui avaient été préparées par les Américains.
Alors, petite nuance, quand on regarde justement la destinée de ceux contre lesquels Poutine a nourri des griefs légitimes, je pense justement au fameux Bortnikov, l'actuel patron du FSB, il lui a été reproché au moment du putsch avorté de Prigogine de n'avoir alerté le Kremlin qu'à 48 heures du déclenchement de l'opération, alors que lui était informé depuis un mois. Or, bizarrement, Poutine ne s'en sépare pas. Pas plus qu'il ne s'est séparé de Gerasimov, le chef d'état-major, après avoir dénoncé ses insuffisances. Pas plus de Shoigu, qui est un ami intime et qui n'a pas été extrêmement brillant.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire, d'après des gens plus inspirés que moi en termes de connaissances du Kremlin, que le resserrement autour du seul personnage de Vladimir Poutine n'a jamais été aussi strict qu'aujourd'hui, et que vous avez même des personnages comme Bortnikov qui n'appartiennent pas au premier cercle, et qu'aujourd'hui le premier cercle c'est 3, 4 ou 5 personnes, avec une personnalisation, on parlait de pouvoir pyramidal tout à l'heure, qui n'a jamais atteint ce degré de caricature.
Et ce qui est encore plus inquiétant, non ?
Bien sûr. Hein ?
Cette question de Régis, Poutine peut se servir de tous les prétextes pour accentuer sa pression sur l'Ukraine, mais le peuple russe y croit-il ? Paul Gogo.
Alors, pour rebondir très rapidement, effectivement, je confirme, en Russie, il n'y a pas d'erreur éliminatoire. Quand vous êtes dans les services, vous ne vous faites pas punir, d'autres personnes sont punies. Il y a des réponses, en gros. Ensuite, oui, c'est la crainte, hein, totalement, c'est ce que je disais. Tout ça, l'ensemble, l'attentat, les élections, tout ça, c'est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et là, d'avoir un Vladimir Poutine qui fonce tête la première pour lier à tout prix l'Ukraine à ce qui vient de se passer, forcément, c'est glaçant, parce qu'on imagine que la réponse ne peut que être liée à l'Ukraine, et certainement sur le territoire ukrainien.
L'Ukraine et les Occidentaux, hein, je précise dans ce qu'a dit Vladimir Poutine. Yves, dans le Morbihan, ce missile dans l'espace aérien polonais, d'où venait-il ? Quelle était sa cible ?
Sa cible, c'était des dépôts, soit des dépôts de munitions, soit des camps d'entraînement du côté de Lviv. Juste à côté, qui est complètement à l'ouest de l'Ukraine. Alors, il pose une très bonne question, d'où vient, j'aimerais bien aussi le savoir,
et on ne le sait pas
transmis, mais il peut très bien venir de la Biélorussie, en fait, hein, tiré par le nord et rentrant pour une question de distance. Mais ça peut aussi venir par le sud, ça peut venir de partout. Mais c'est pour ça que ce serait très intéressant de disposer, si vous voulez, de la trajectographie, on comprendrait mieux ce qui s'est passé.
On ne les a pas autour de la table, mais on peut imaginer qu'on les a quand même, en haut lieu.
Oui, peut-être, mais en fait, il n'est pas sûr qu'on ait le lanceur, parce que le lanceur, il peut tirer son missile à plus de 2000 km. Hein. Donc, il a une très, très grande portée si vous tirez en très haute altitude. Par contre, la trajectographie, oui, on l'a dans les 100 km.
Donc, ça veut dire que lorsque les Russes demandent des preuves, ils n'ont pas totalement tort ?
Non, mais d'abord, ils n'ont pas besoin d'avoir des preuves, alors que c'est manifeste. Ils demandent des preuves. Il ferait mieux de demander des preuves pour l'attentat horrible du 22 mars en menaçant les Ukrainiens.
Allez, peut-on dire à la mode russe que le survol de la Pologne par un missile russe constitue une agression contre l'OTAN ? Oui ou non ?
Je ne le vois pas comme une agression, je le vois comme un test. Encore une fois, un test à la fois de la qualité technologique du dispositif anti-aérien et de défense et de repérage, et encore une fois, un test, on l'évoquait tout à l'heure, de la résolution des partenaires de l'Alliance Atlantique dans leur soutien à l'Ukraine. C'est plus de cet ordre-là, me semble-t-il.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intention et qu'on soit absolument sûr de l'intention pour, à un moment donné, détruire un missile qui survole un pays de l'OTAN.
En d'autres mots, un missile qui survole pendant 39 secondes un territoire, ce n'est pas un missile qui frappe une caserne polonaise à la frontière. Voilà.
D'accord, c'est dit. Quel matériel ? Mais faut-il attendre que ce missile-là frappe cette caserne polonaise pour intervenir ?
C'est tout le débat aujourd'hui de l'OTAN, de ça.
Quel matériel la France pourrait-elle fournir à l'Ukraine en matière de protection aérienne ?
Protection, déjà elle fournit, hein, c'est les missiles solaires, les fameux Aster dont parlait Sébastien Lecornu hier en commandant 200 puis 200, ça vaut quand même 1 million à 2 millions d'euros pièce quand même, hein, c'est des gros missiles, hein. C'est un peu si vous voulez des petits patriotes en fait, hein, et qui sont très bien, et il y a aussi d'autres des missiles plus petits en fait pour différents systèmes. La difficulté en fait, voyez-vous, c'est de trouver un missile peu cher pour détruire des drones peu chers, en fait. C'est le gros sujet.
Très rapidement, l'effort français, par rapport notamment à la capacité aérienne de l'Ukraine, n'est pas de fournir des Mirages et a fortiori des Rafales, mais plutôt de fournir des munitions sophistiquées, extrêmement bien guidés, mais adaptés à des appareils de type Sukhoi, par exemple, dans l'appareil de l'ère soviétique.
Cette question d'Annie à Bruxelles, l'Europe doit-elle se préparer à une guerre contre la Russie dans les prochains mois, Pierre Haroche ?
Il faut toujours se préparer. Et évidemment, c'est en se préparant qu'on évite que l'occasion soit tentante.
Emmanuel Macron devait se rendre en Ukraine avant la mi-mars. Qu'en est-il ? Est-ce trop dangereux ? Il n'y a pas de personne d'information sur cette visite.
Bah, ce qu'on vous dit à l'Élysée, c'est que le voyage est toujours au programme et qu'il aura lieu au printemps.
Merci. Et juste, on précise sur le S trop dangereux qu'il y avait une fake news qui avait été relayée par les médias russes en expliquant qu'il y avait une menace de mort qui planait sur le président de la République, démentie par l'Élysée. Merci à vous tous. On se retrouve demain en direct dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. N'oubliez pas que nous sommes également rediffusés sur France Info, c'est le canal 27, et puis aussi sur France 5 le matin à 9h. Belle soirée. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.